Shalom à tous pour ce nouveau brouillon de culture au micro Tamara. Alors, comme j'avais commencé cette petite habitude les dernières semaines, je voulais vous présenter, mais ce sera un petit peu plus bref que les fois précédentes, mon dernier coup de cœur cinématographique, Les Derniers Juifs de Noé Debré. Si vous avez l'occasion d'aller le voir, il ne passe pas souvent à Bruxelles, il est passé une fois, il passera une deuxième fois, allez-y. Le dernier des Juifs, c'est Belisha, il a 27 ans, il habite toujours avec sa maman. C'est une espèce d'homme-enfant qui occupe ses journées sans projet, en inventant des exploits auxquels sa mère fait semblant de croire. Ils sont les derniers Juifs du quartier de ce quartier de banlieue. C'est un quotidien marqué par l'antisémitisme, par la peur de l'autre, les clichés, mais aussi par la solidarité entre voisins face à la maladie ou au deuil. Un ton qui oscille entre comédie, émotion, avec un subtil équilibre. C'est Le Dernier des Juifs de Noé Debré, à ne pas manquer. Et puis une émission dont les titres seront consacrés exclusivement à des textes qui parlent de Shoah. Le premier, c'est une bande dessinée publié chez Glénat, de Morvan Evrard et Ben Beka. C'est Simone, le tome 2, dès 9 ans. J'ai eu un vrai coup de cœur pour cette bande dessinée qui raconte l'histoire de Simone Lagrange, arrêtée en 1944. Elle a 13 ans à l'époque. Elle est interrogée, brutalisée par Klaus Barbie, qui l'a fait déporter à Auschwitz-Birkenau. Le récit nous montre aussi Simone, âgée de 43 ans, au procès de Klaus Barbie, surnommé le boucher de Lyon, qui nie absolument ses actes pendant la Shoah envers les Juifs. La narration croise les récits, intègre des dessins, des témoignages, et cette bande dessinée Esther et Polly, chacun apportant un regard un petit peu différent. Sensible, émouvant, le récit évoque la souffrance de Simone, sa détermination, sa colère face à la mauvaise foi et aux mensonges. Outre le récit de Simone face à Klaus Barbie, le lecteur découvre l'histoire des enfants d'Izieux, les horreurs commises par Mengele. Il découvre les persécutions envers les Juifs, l'horreur des camps, la fuite des anciens nazis après la guerre, la difficulté de témoigner pour les rescapés et le doute si douloureux qui accompagne certains de leurs témoignages. Et malgré tout, on assiste aussi à des moments de solidarité, d'amitié, de courage qui permettent de continuer à croire en l'humanité. Les dessins sont très beaux, une grande richesse pour traduire les multiples points de vue du récit. C'est vraiment une toute grande réussite à partager absolument avec la jeune génération. C'est donc Simone, le tome 2, et c'est chez Glénat. Et puis, pour les grands adolescents et les adultes, je voulais présenter d'abord le texte de Ivan Schiappeccioni, 40 manteaux et un bouton chez Albin Michel, traduit d'italien. C'est un magnifique roman basé sur un épisode de la Shoah, le sauvetage de 40 enfants juifs qui ont fui l'Allemagne nazie et arrivent dans la province de Modène, dans une villa, en 1942. Parmi eux, le jeune Nathan, arrivé seul. Son père a été arrêté, sa mère et son frère sont restés à Berlin. Il pense à eux, déroule le fil des événements. Et je vous lis de petits extraits. Mon père a arrêté de rire après les incendies. Avant, il était drôle. Certains héritent d'un père absent, d'autres d'un père riche ou d'un sévère. Moi, j'avais eu droit à un père drôle. J'aurais pas pu rêver mieux. Il restait assis sur son fauteuil de velours vert, avec les accoudoirs et l'appuie-tête décolorés par les temps et les méditations d'après-déjeuner. Cet après-midi-là, un sifflement lent et régulier s'élevait du fauteuil. Je m'approchais de mon père pour regarder l'intérieur de sa bouche, pour voir si elle abritait un mécanisme secret, et c'était de cette bouche que sortaient toutes ces histoires. Quand il ne somnolait pas, mon père écoutait la radio des voisins. « C'est une chance d'habiter un taudis, disait-il. Tu sais que les riches ont des murs tellement épais que le son ne passe pas? Imagine un peu, ils sont obligés d'acheter un poste de radio par foyer. Les riches doivent dépenser un tas d'argent pour être aussi riches. Nous, on a juste besoin de se rapprocher du mur. » Et un petit peu plus loin. « Ma mère, mon père et moi, on avait fait le même cauchemar. Mon frère, Samy, non. Il ne l'avait pas dit. » Où il ne l'avait pas dit. dans nos rêves, comme dans la réalité, les hommes étaient venus mettre le feu à tout ce qui donnait l'impression d'être protégé. Synagogue, cimetière, boutique, tout. Ils avaient pris, brisé, arraché, frappé, piétiné, tabassé, poussé, tiré, fracassé, traîné, jeté, lancé et brûlé. Chez nous, il ne s'était rien passé, rien de grave. Personne n'était venu, personne ne nous avait menacés. Pourtant, mon père a cessé de rire. Il y a juste un tableau qui est tombé, inexplicablement, du mur qui nous séparait de nos voisins, celui à travers lequel passait la voix de la radio. Le tableau est tombé, laissant une trace sombre et humide. Alors que tout le monde autour de nous se lamentait sur les saccages et les incendies, on avait vu un clou céder spontanément et un tableau tomber par terre. Rien de plus. Mon père a cessé de sortir de la maison. Il est resté à fixer le rectangle vide au milieu du mur qui ne parlait plus. Chaque enfant arrive là-bas éprouvé, après avoir connu la peur, l'arrachement, la violence. Nous sommes restés enfermés pendant des jours, attendant les autres. Quand ils arrivaient, les nouveaux ne prononçaient pas un mot. Ils cherchaient un petit coin où se glisser près du mur. Je les voyais s'affaisser, leurs valises entre les bras, et demeurer comme ça, immobiles, avant de reprendre vie, de redevenir des garçons, des filles, mais pas complètement, car aucun de nous n'est plus celui qu'il était avant. Nathan participe à la vie de la villa, mais surtout, il réfléchit beaucoup, analyse ses sentiments avec finesse. Je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai une idée plus précise de ce que ressentent les bonobos. Enfant, je passais des journées entières au tir-garde à les regarder en compagnie de ma grand-mère. Elle apportait une pomme, mon goûter, et à une heure qu'elle seule connaissait, la coupait en quartiers qu'elle me tendait. J'en gardais toujours deux morceaux dans ma veste, un dans chaque poche, et une fois arrivée devant la cage des bonobos, je les lançais à travers les barreaux sans me faire remarquer. Ma grand-mère y voyait mal, c'était facile de la rouler. Et quand nous repassions devant les cages, sur le chemin de la maison, j'avais l'impression que les bonobos me souriaient. Ceux qui avaient mangé ma pomme, bien sûr, mais également ceux qui étaient restés assis à regarder. Maintenant, ici, à Nanantola, c'est nous, les bonobos. Nous sommes en cage et on nous observe. Il ne s'agit pas seulement de survivre, mais il s'agit de rester un être humain. Et je vous lis le dernier extrait. C'est grâce à ma mère et à Josco si je suis encore humain, parce qu'elle m'écrit des lettres magnifiques et parce que lui serait prêt à prendre sur ses épaules le poids de ma douleur. Je suis humain parce que je suis au centre de leurs préoccupations, à tous les deux. Je tends les bras et je trouve un endroit où m'appuyer. Si ce n'était pas le cas, si je sentais que le vide autour de moi, je n'aurais peut-être pas peur de la guerre. Je me laisserais attraper. Oui, c'est ça. Je sais que je suis humain parce que j'ai peur de la guerre, parce que je continue à courir, même depuis que la guerre a éclaté. Nathan s'efforce de graver chaque instant le nom de chaque personne qui l'aide dans sa mémoire pour ne pas oublier, pour honorer leurs souvenirs plus tard. Mais en septembre 1943, les troupes nazies arrivent, les enfants sont sauvés grâce à la solidarité d'un village tout entier. Après les avoir nourris, après les avoir aidés, ils vont les aider à passer en Suisse. Et pour tromper la surveillance des soldats, les villageoises vont leur coudre des uniformes et les déguiser en écoliers, d'où le titre « Les 40 manteaux et un bouton ». Poignant, le roman est aussi un magnifique récit de solidarité. C'est donc le texte de Ivan Schiapeconi, « 40 manteaux et un bouton » et c'est chez Albin Michel. Un autre coup de cœur, le texte qui vient de paraître en français de Lucie Adelsberger, une pédiatre à Auschwitz, publié aux éditions Anne Carrière. Une pédiatre à Auschwitz, c'est un ensemble de textes très courts qui évoquent la période avant, pendant et après la guerre. Le recueil est précédé de deux préfaces. La première, d'Annette Wisburka, insiste sur le moment de la rédaction. En effet, l'auteur commence à rédiger ses souvenirs dès 1946. C'est très tôt. La deuxième préface est celle du traducteur. Il insiste sur la personnalité de l'auteur. Lucie Adelsberger n'est pas une femme typique de son époque. Elle a étudié la médecine à une époque où les femmes constituent une minorité infime des étudiants dans les auditoires, moins de 4%. Elle s'est spécialisée en médecine interne, en pédiatrie, pour aider à développer cette branche nouvelle de la médecine qui s'intéresse aux allergies. 1933 met fin à sa carrière de chercheur, avec les restrictions qui suivent la nomination d'Hitler au poste de chancelier. Comme les autres médecins juifs, elle perd son agrément. Cela implique également une dégradation de la médecine à Berlin en particulier, puisque de nombreux médecins sont juifs et ne sont pas remplacés. Si Lucie n'a pas immigré, c'est en partie à cause de sa mère, qu'elle refuse d'abandonner. Elle consacrera d'ailleurs un de ses textes à cette situation déchirante qui est celle de nombreux juifs au début de la guerre. Après la guerre, elle ne put envisager de rester vivre en Allemagne et dans le soupçon. Elle dit « Je ne peux pas vivre avec la haine ou plus exactement la défiance. En faisais-tu partie, toi ou ton mari ou ton frère ?» Se pose évidemment la question du témoignage. Comme le dit Elie Wiesel dans « La nuit », le témoignage ne sera pas reçu. Seuls qui ont connu Auschwitz savent ce que c'était. Les autres ne le sauront jamais. Enfin, il y a la difficulté à se reconstruire physiquement et psychologiquement, la difficulté de se reconstruire professionnellement. Au moment où paraît son témoignage, d'autres rescapés lui reprochent son ton modéré. Pourtant, à la lecture de ces textes, ce reproche me semble injuste. Le texte de Lucie Adelsberger dit la réalité du nazisme et du camp sans emphase au lecteur de comprendre ce qui n'est pas dit explicitement, de lire entre les lignes, de comprendre parfois l'ironie qui se glisse dans certaines descriptions. J'espère pouvoir me rendre un jour à Berlin pour me recueillir devant le Stolperstein posé à sa mémoire, devant le numéro 17 Bebstrustrasse, devant un des nombreux domiciles qu'elle a occupés entre 1921 et 1943. Alors je me propose de parcourir ces textes et de relever quelques passages que j'ai trouvés particulièrement forts. La première partie de son texte, de son livre, est consacrée à la période qui précède la guerre. Et le premier texte, rédigé entre juillet 1938 et juin 1939, s'intitule de manière très appropriée « Dans la souricière ». Il évoque trois temps dans la mise en place du piège qui se referme sur les Juifs. Un décret noyé dans la masse d'ordonnances émises par la Gestapo. L'interdiction pour les Juifs de s'asseoir sur un autre banc que ceux réservés aux Juifs dans l'espace public. Deuxième moment, après d'interminables démarches et une longue attente, Lucie et sa mère arrivent au bureau qui devait permettre d'obtenir les documents en vue de leur immigration. Alors que sa mère sourit poliment à l'employé, elle se fait agresser furieusement. « Vous osez sourire ! Le rire vous passera, on va s'en occuper !» Et enfin, le refus du visa. Des milliers de gens avaient tremblé, espéré, prié, attendu, fait des pieds et des mains, remué ciel et terre, et restaient là, écrit-elle, les mains vides, parce que, ça aussi nous dûmes l'apprendre, le monde dehors ne voulait pas nous venir en aide. Dans le texte intitulé, ou le chapitre intitulé « Quand les enfants prient pour la mort de leurs parents », elle raconte avec ce même mélange de pudeur, de clairvoyance et de cynisme comment les enfants, déjà adultes, refusent d'abandonner leurs parents âgés, c'est son cas, incapables de fuir et dès lors sont piégés eux aussi au point de se demander s'ils ne devraient pas abréger leur existence. Et je vous lis un premier extrait. Un humain qui croit une puissance supérieure avait-il le droit de mettre fin de manière délibérée à une vie, la sienne ou celle d'autrui? Je ne le pouvais pas. Mais je m'étais agenouillée et j'avais imploré Dieu pour la mort de ma mère. Autant qu'avant que les assassins ne me l'arrachent ou qu'eux-mêmes ne l'emportent de leurs mains meurtrières. Pas moi seulement, mais beaucoup de fils et de filles. Tous ne connaissaient qu'une prière, la mort de leurs parents. Aucun tribunal humain ne pourra jamais demander des comptes aux coupables pour les tortures morales que les enfants ont subies à cause de leurs parents et qui ont transformé l'amour le plus sacré en souhait de mort. La deuxième partie commence par les lignes suivantes, datées du 17 mai 1943. « Nous sommes assis dans un wagon de marchandises. J'ai choisi de partager un extrait du texte suivant, intitulé « Sans rien ». À la date de mai 1943, qui raconte le dépouillement infligé à ceux qui arrivent au camp. Le premier couloir conduisait au bain, le sauna. C'est là que commençait pour de bon la véritable procédure. Déshabillage, coupage des cheveux, ou plutôt rasage total jusqu'à la dernière touffe. Douche, tatouage. C'est là qu'on nous prit véritablement tout jusqu'au dernier bien. Rien ne nous resta, rien de nos vêtements ou affaires de toilette, ni savon, ni serviette, ni aiguille, ni couvert, pas même une cuillère, ni documents permettant de nous identifier, ni portraits ou petits mots de ceux que nous aimions. Un trait était tiré sur notre passé, on l'avait supprimé. Seul notre nom nous y reliait encore. Mais lui aussi devait disparaître avec tout ce qui lui était lié. On nous laissa sans sous-vêtements, avec juste une chemisette bien légère, habillée de vêtements de détenus, d'un jaune brunâtre. Et un peu plus loin. Puis on nous donna un matricule gravé sur notre avant-bras gauche et cousu sur nos vêtements avec un triangle caractérisant le détenu. Nous étions éliminés du monde entier, du monde extérieur, déracinés de notre pays, arrachés à nos familles, réduites à un numéro. À Auschwitz, il y a aussi le camp des Tziganes qui organise des représentations avec musique, danse, rire. Ce jour-là, elles sont brutalement interrompues par un sifflement et l'ordre de se rassembler. Cette nuit-là, écrit Lucie, 2500 Tziganes tchèques allèrent au gaz. C'était notre deuxième dimanche au camp, celui du 30 mai 43. De ce jour, nous sûmes qu'au camp, tout rire et tout jeu n'était jamais qu'un prélude. Parmi les lois du camp, celle intolérable de ne pouvoir intervenir. Et je vous lis encore un tout petit extrait. À la page 108. Assister impuissant, devoir regarder comment autrui est torturé et souffre sans pouvoir aider, est une des choses les plus épouvantables du monde. Et c'est encore mon opinion aujourd'hui. Se dominer, serrer les dents, devoir tout laisser passer en fermant les poings en cachette et ne pas pouvoir soutenir son camarade dans la détresse, c'était la loi au camp de concentration d'Auschwitz. Et l'appel en était l'éblouissante enseigne. À un seul moment, elle exprime sa révolte contre Dieu. Et je vous lis cet extrait-là aussi. C'est par une telle nuit, le 29 septembre, qui était aussi le nouvel an juif, que je me rebellais contre Dieu. Pourquoi ? Pourquoi tout cela ? À quoi bon une nouvelle année ? Tous mes amis dans le camp étaient morts. C'était toujours les meilleurs qui partaient en premier. Pour aucun de nous ne subsistait d'espoir. À quoi servait toute cette souffrance, tout ce désespoir, cet enfer que nous traversions ? Si aucun de nous ne survivait pour pouvoir un jour feuilleter le livre et raconter l'histoire de ceux d'Auschwitz. 5 jours plus tard, c'était l'acmé. La fièvre du passant décrut, il dormit du saint sommeil de la convalescence. Après des semaines, on put le laisser de nouveau seul. Je me trouvais derrière le bloc et vis la cheminée, le soleil de nouveau réapparu, suspendu comme une boule rouge dans le ciel vespéral. Et il me vint à l'esprit que la vie était encore plus forte que la mort. Un jour, de la cendre des morts, la vie renaîtrait à Auschwitz, tel un phénix. Il y a bien sûr ce terrible moment de l'angoisse, de la sélection dont elle parle. Du pourquoi, et je vous lis encore ce petit extrait. Pourquoi, dit un camarade qui pressentait que cette fois sa sœur était de l'autre côté. Pourquoi devons-nous supporter cela? Avons-nous tant péché? Nous avons suivi notre chemin. Nous nous sommes efforcés de ne commettre aucune injustice et d'aider les autres. Nous n'avons tué personne, nous n'avons pas été des criminels. Et même pour un meurtrier, le châtiment serait beaucoup, beaucoup trop sévère. Pourquoi cela nous tombe-t-il dessus? Combien de fois nous étions-nous déjà posé ces questions, le soir en nous endormant, le matin lors du brutal réveil, à chaque heure de la journée et la nuit, pendant les gardes? Peut-être sommes-nous devenus trop sévères, trop durs. Devons-nous être plus indulgents, balbutiai-je? Lui, un homme bienveillant, m'en voulut de cette réponse. Il avait perdu 9 membres de sa famille à Auschwitz. 18 janvier 1945, c'est l'évacuation du camp et le début de la marche de la mort. Là aussi, je vous lis un petit extrait. Maintes et maintes fois, on nous fit mettre en rang pour l'appel et on sonna le signal de la marche de départ. Maintes fois, pour rien. Ce jour-là, nous ne pûmes ni nous asseoir, ni manger la moindre bouchée. Finalement, vers 5 heures du soir, les étoiles scintillaient déjà, notre groupe se mit en marche. Ce n'était pas un rêve. Nous quittions Birkenau en vie, nous qui n'avions jamais pensé possible de sortir d'Auschwitz. Plusieurs mois plus tard, nous apprîmes qu'Auschwitz et Birkenau avaient été évacués et laissés presque intacts par les Allemands en retraite. Les détenus que nous avions abandonnés derrière nous, le cœur brisé, furent libérés par les Russes dès le 27 janvier 1945, beaucoup plus tôt que tous les autres. Elle évoque aussi, bien sûr, la libération dans cet extrait que je vous lis. De la même façon que notre corps affamé peinait à vouloir digérer tout de suite la nourriture, nous ne pouvions assimiler totalement la liberté dès le premier moment. Nous devions d'abord nous habituer. Nous avancions à tâtons, de nos pas maladroits et hésitants, dans cette vie nouvellement gagnée. Ensuite, nous la saisîmes pour de bon. Si je devais dire comment nous flânions dans le bois de hêtre en ces jours de mai, sans entrave ni surveillance, comment nous regardions le ciel qui nous appartenait de nouveau à travers les jeunes cimes de bouleaux, comment debout devant un cerisier du Japon en fleurs, je caressais les forsythias de mes mains libres, comment je vagabondais à travers les champs qui n'avaient d'autre clôture que l'horizon, seul, libre, cependant relié au vaste monde. Si je voulais écrire à ce propos, alors il faudrait que je sois une grande poétesse. Et le ciel s'ouvrit. C'est le retour à la vie, l'engagement à vivre et l'engagement à témoigner. Nous disions oui à la vie. C'est un miracle, une grâce de Dieu que nous ayons survécu à Auschwitz. C'est un engagement. Nous avons entre nos mains le testament des morts. Il nous incombe de parler d'eux. Discourir sur eux est épouvantable. Les histoires de l'enfer ne font pas l'effet de contes de bonnes femmes. Elles sont atroces, vous brisent le cœur. Il serait plus confortable de faire des retouches ou même de tout passer sous silence et d'oublier, y compris pour nous. Mais c'est justement cela qui n'est pas permis. Au nom de la mémoire des morts, le monde doit tirer l'enseignement des souffrances endurées, non pour que les vivants s'en affligent, pour qu'elles leur gâchent la vie, surtout pas pour faire sensation, mais comme un enseignement et un exercice pour les générations à venir. Et enfin, un petit extrait de sa conclusion. À cause d'un fanatisme fourvoyé, des êtres civilisés se sont transformés en bêtes sauvages qui non seulement ont tué, mais ont aussi torturé avec joie, plaisir, ainsi qu'assassiné. Passage, évidemment, qui résonne terriblement moderne quand on pense aux événements du 7 octobre. Une pincée d'antisémitisme de salon, un peu d'antagonisme politique et religieux, le rejet de celui qui pense différemment en politique, en soi un inoffensif fourre-tout, jusqu'à ce qu'un démon arrive et en face de la dynamite. Il faut comprendre cette synthèse si l'on veut éviter dans l'avenir que les choses se passent comme à Auschwitz. Quand la haine et la calomnie germent à bas bruit, alors cela veut dire qu'à ce moment, il faut être éveillé et prêt. C'est cela le testament de ceux d'Auschwitz. Les morts étaient forts et dans leur trépas, ils se sont dépassés avec des forces qui tendaient au gigantesque. Les vivants peuvent-ils se permettre d'être plus faibles ? Voilà des extraits de ce texte majeur au ton personnel, remarquable par son mélange de description, d'analyse, d'ironie, d'amour pour la vie, l'humanité envers et contre tout. Cette volonté de témoigner, même si c'est tellement difficile, c'est le récit de Lucie Adelsberger, une pédiatre à Auschwitz, un texte traduit de l'allemand par Jean-Pascal Auvray, avec, je vous le disais, la magnifique préface aussi bien d'Annette Viviorca, du traducteur. C'est un récit publié chez Anne Carrière. Voilà, ici s'achève cette émission aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine. Shalom à tous.